Une victime d'Anne Radcliffe par Maurice Soulier. En 1811, dans l'étude Maître Lardigeois, notaire, rue des Petits Carreaux, il y avait à vendre, sur adjudication, une maison située au coin du boulevard et de la rue de la Poissonnière. Elle était dénommée Hôtel de Saint-Phar, mise à prix 80 000 francs et grevée d'une hypothèque de 50 000 francs remboursable en 3 ans. Jusqu'au 25 mars, le seul acquéreur qui se fait présenter était un homme d'affaires, soi-disant avocat conseil, qui s'appelait Joseph Rigoulot. Jovial et matois, amateur de bons dîners et de jolies filles, il avait gagné honnêtement ou malhonnêtement, suivant les occasions, une fortune rondelette qui lui permettait d'avoir un bel appartement à Paris, rue de l'Échiquier, et une agréable maison de campagne à Essonne, près de Corbeil. À cause de l'augmentation croissante du prix des terrains, il comptait faire une grosse spéculation sur l'hôtel Saint-Phar et s'en croyait déjà acquéreur, lorsque 8 jours avant l'adjudication, une femme entre 2 âges, plus près du second, maigre et agitée, se présenta dans l'étude de Maître Lardigeois et demanda à s'enquérir des conditions de la vente. Elle donna son nom, Madame Clarisse Morin. Veuve d'un receveur de l'enregistrement à Coulommiers, elle était propriétaire d'une ferme vacherie près de la barrière de la Villette. Mais le commerce du lait ne suffisait pas à son agitation. Elle rêvait d'exploiter une maison meublée et elle avait jeté son dévolu sur l'hôtel de Saint-Phar qu'elle se proposait de surélever d'un étage. Maître Lardigeois crut bien faire de prévenir son client et ami, M. Joseph Rigoulot, qui lui demanda de lui faire rencontrer sa concurrente dans l'étude comme par hasard. Il lui tôt fait de la juger et de tirer son plan. Au lieu de la décourager, il fallait la laisser s'engager à fond dans une affaire trop lourde pour ses maigres épaules. Incapable de payer à échéance les billets qu'elle serait obligée de souscrire pour couvrir ses frais d'achat et de nouvelles constructions, elle serait tôt ou tard obligée de revendre l'immeuble agrandi tout prêt à être exploité comme hôtel meublé. Alors Rigoulot le rachèterait à bas prix. D'abord, sous un prête-nom, il reprit l'hypothèque à son compte et pour surveiller de près sa proie, il se mit en frais d'amabilité avec la veuve Morin, l'invita au restaurant, au théâtre, dans sa maison de campagne. Même, il lui prêta 10 000 francs pour l'aider dans ses constructions dont les devis montaient comme soupe au lait. La veuve Morin le prit pour un bon ange que la Providence avait mis sur son chemin, et elle envisagea la félicité de s'appeler un jour Madame Rigoulot. Cela dura 2 ans, jusqu'à ce qu'un matin, en ouvrant sa boîte aux lettres, elle y trouva une sommation d'avoir levé l'hypothèque de 60 000 francs qu'elle avait acceptée en achetant la maison, faute de quoi l'hôtel de Saint-Phar serait mis en vente par autorité de justice. Pleine de confiance en Rigoulot, elle courut chez lui rue de l'Échiquier. Rigoulot n'était pas à Paris. Il n'était jamais à Paris, excepté quand elle allait le relancer dans sa maison d'Essonne. Bientôt, un peu tard, elle découvrit toute sa machination. L'hôtel de Saint-Phar fut vendu 130 000 francs, et acquis par lui sous un prête-nom. La veuve Morin, en plus du prix d'achat, y avait englouti 70 000 francs, toute sa vacherie. Il ne lui restait plus que la pension, heureusement inaliénable, de feu son mari et le droit de maudire tant qu'elle le voulait Joseph Rigoulot. Ici entre en scène Mademoiselle Angélique Morin, fille de la précédente. Cette jeune personne, qui sortait de l'adolescence, puisqu'elle avait à peine 16 ans, était attachée au corps de ballet de l'opéra en qualité de coryphée. Mais elle avait l'ambition de devenir un premier sujet. Sa beauté blonde, fine, musclée et ses grands yeux rêveurs justifiaient ses espérances. Elle avait aussi des visées littéraires et pour s'entraîner à écrire, elle lisait beaucoup. Mais ses lectures n'étaient pas du meilleur choix. Les ouvrages classiques et même ceux de M. de Chateaubriand la laissaient indifférente. Elle ne recherchait que les élucubrations fantastiques à la manière d'Anne Radcliffe. Elle s'y plongeait avec frénésie. Sa mère s'en inquiétait, mais elle n'avait aucun pouvoir sur sa fille qu'elle admirait et qui la dominait complètement. Un soir d'hiver, dans la salle à manger de leur appartement de la rue de Bondy, Angélique, vêtue d'une mauvaise robe de chambre, assise devant un petit guéridon sous l'abat-jour d'une lampe à huile, dévorait un roman d'Anne Radcliffe intitulé « Les souterrains du château de Dombelle ou les mystères du Dolphe ». Côté d'elle, sa mère, en peignoir à ramages, faisait des comptes et de temps en temps s'interrompait pour lancer des imprécations contre Joseph Rigoulot. Les reliefs d'un maigre repas restaient sur la table, couverte d'une toile cirée qui représentait les 5 parties du monde. Dans la rue silencieuse, de temps en temps, un fiacre passait. Tout d'un coup, Angélique se tourna vers sa mère en s'exclamant. « Maman, ma petite maman chérie, nous sommes sauvés. »«
Sauvés, que veux-tu dire ?»«
Dans quelques jours, vous recouvrerez tout l'argent que ce misérable Rigoulot vous a volé, et peut-être plus encore. »
La veuve Morin, toujours croyante, regarda sa fille avec des yeux agrandis par l'espoir.
« Et comment, mon enfant, comment ? Écoutez ceci. »
D'une voix théâtrale, Angélique lut.
Depuis quelques jours, le colonel Walmer languissait dans son caveau, lorsqu'un fantôme entra, suivi de fantômes subalternes. Il tenait des papiers à la main. C'étaient des billets au porteur pour le montant des sommes dont le colonel avait hérité. Le fantôme lui dit « Lisez et signez. Ainsi je vous offre le moyen de mériter la liberté en rendant à ceux qui n'ont rien ce qu'il y a de trop dans votre lot des biens de ce monde. Demain, je reviendrai savoir votre décision. Vous êtes perdu si elle est contraire à ce qui vous est enjoint. » Sur ce, le fantôme disparut en laissant au colonel Walmer les billets à ordre et tout ce qu'il fallait pour écrire. Quand elle eut terminé sa lecture, Angélique regarda sa mère. « Eh bien, maman, avez-vous compris ? » Alors la veuve Morin se leva et saisit sa fille dans ses bras.
« Oui, Angélique, j'ai compris. C'est la Providence qui a mis sous tes yeux cette page d'un livre. Mais il faut encore bien réfléchir à ceci. Nous allons combiner notre vengeance. »
Et jusqu'à minuit, les deux femmes chuchotèrent sous la clarté de l'abat-jour dans la maison endormie. Mademoiselle Jonard habitait au numéro 10 de la place Dauphine, au troisième étage, un petit appartement où elle exerçait officiellement la profession de graveuse sur cuivre. Mais en réalité, elle était cartomancienne, sans scrupule à l'occasion, et appartenait à la police secrète dont elle recevait une subvention de 4 francs par jour. Elle avait environ 50 ans. Petite, maigre, toujours vêtue de soie noire, les cheveux tirés en bandeaux sur une face squelettique, éclairée par 2 prunelles verdâtres, clignotantes qui rappelaient celles de la chouette, elle gagnait fort bien sa vie et entassait des écus dans des pots de fleurs. La veuve Morin était une de ses meilleures clientes. Elle venait la consulter avant de risquer ses opérations et lui laissait chaque fois une pièce de 5 francs. Au moment d'acheter l'hôtel de Saint-Phar, elle lui avait demandé conseil. Dès le lendemain matin, Madame Morin était chez elle avec Angélique et lui exposait ses nouveaux projets. Bien qu'elle ne s'étonnât pas de grand-chose, tant de choses elle avait vues, Mademoiselle Jonard fut tout de même un peu surprise, et elle fit quelques objections pour la forme. Au fond, peu lui importait que la veuve Morin s'empêtrât jusqu'au cou. Elle y entrevoyait même déjà quelques avantages pour elle. Elle promit donc aux deux dames d'interroger pour elle un personnage mystérieux auquel elle n'avait recours que dans les grandes circonstances. Il s'appelait le maître, et ne quittait jamais les côtés de l'empereur Napoléon Ier, excepté pour venir à l'appel de Mademoiselle Jonard. Mais il n'apparaissait qu'à elle seule. Elle l'interrogerait à minuit pendant que l'empereur Napoléon dormait, et Madame Morin pourrait, le lendemain, venir chercher sa réponse. Angélique exposa aussi à Mademoiselle Jonard un rêve qu'elle avait fait pendant la nuit. Elle avait vu une chaudière, et dans cette chaudière, beaucoup de chair blanche qu'elle tirait avec une grande écumoire. Elle avait encore vu qu'elle s'arrachait une dent, et que dans cette dent, il y avait plusieurs cavités pleines de petits serpents. La Jonard en conclut aussitôt que cette chair et cette dent étaient celles de Rigoulot et que ses présages signifiaient sa mort. Et les deux dames, enchantées, prirent congé de Mademoiselle Jonard, en lui promettant de venir la revoir le lendemain, après qu'elle aurait consulté le maître. Le lendemain, Mademoiselle Jonard leur déclara que le maître était d'avis qu'elle tentasse l'aventure et qu'il envisageait leur réussite. Que se passait-il donc, 2 mois après, dans la cave de cette petite maison isolée au milieu des jardins, à quelques 100 mètres du visage de Clignancourt? Au milieu de la cave, que des chandelles éclairaient d'une lueur sinistre, un poteau était planté. Près du poteau, il y avait une chaise, et sur cette chaise, un homme bâillonné et attaché par de grosses cordes qui ne lui laissaient que les bras libres. Devant la chaise, une table qui portait un encrier, du papier, une plume, 3 effets de commerce et un lacet de soie. 3 femmes entouraient l'homme enchaîné. L'une d'elles paraissait être une servante. Les 2 autres étaient la veuve Morin et sa fille Angélique. Soudain, les 3 femmes se mirent à pousser de grands cris. Angélique prit un pistolet dans son corsage et le braqua sur l'homme enchaîné qui donnait les signes de la plus vive terreur,
Puis, levant son arme, elle tira en l'air plusieurs coups. Après quoi, Madame Morin entra en scène. Elle sortit un papier de sa poche et, d'un ton que Mademoiselle Mars n'eut pas désavoué, lut ceci, s'interrompant quelquefois pour jeter sur l'homme enchaîné des regards terrifiants. « Comment l'enfer a-t-il pu vomir un monstre tel que vous ? Il est donc bien décidé que ce sera aujourd'hui votre jour de justice ou mon jour de vengeance. En ma puissance, mon adresse aux amis. Choisissez donc la mort, ou de me rendre ce que vous m'avez pris. Soyez redevable, mon enfant, du choix que je vous donne. Si moi seul existais, j'explosionnerais ma rage avec toute la férocité qu'exigent toutes les horribles monstruosités dirigées par vous contre moi. 200 000 francs est le montant des 4 billets que vous allez signer. Vous mettrez sur chaque billet bon pour la somme de 50 000 francs, valeur reçue en espèces, et vous signerez. Je reconfronterai votre écriture. Ayez soin qu'elle soit semblable. Je vous donne un quart d'heure pour l'option. Si vous préférez ma vengeance à votre intérêt, je l'exécuterai moi-même. Et si je pouvais, sans crainte, faire durer le plaisir, il me serait doux de me livrer sur vous à tous les tours de barbarie que l'imagination peut concevoir. » L'homme enchaîné écoutait ce discours avec un accablement manifeste. Il fit signe, en baissant la tête, qu'il acquiesçait à l'ultimatum que venait de lui poser Madame Morin, et se mit aussitôt en devoir de signer les 4 billets. Ce n'était qu'une répétition générale. L'homme enchaîné était un ancien domestique de Madame Morin, grassement payé pour servir de figurant et ensuite d'acolyte. La maison avait été louée à bail dans ce coin désert de banlieue, et les soupiraux de la cave aveuglés afin que les voisins n'entendissent pas là où les détonations. C'était la scène reconstituée des souterrains du château de Nombelle avec Rigoulo dans le rôle du colonel Volmer. Madame Morin, dissimulant sa haine, avait continué à le voir et à lui sourire pour essayer de lui tirer quelques rogatons par douceur en attendant de pouvoir user de violence. Et le lendemain de la répétition générale, elle lui adressa le poulet ci-dessous. « Mon cher ami, je vous invite à venir déjeuner avec nous mardi prochain dans une petite maison que j'ai louée à la campagne. Vous me direz ce que vous en pensez. Choisissez 5 plats auxquels votre goût donne la préférence. Si vous ne le faites, j'enverrai chez Robert et commanderai tout ce qu'il y a de plus choisi. Venez me prendre à 10 heures rue de Bondy. Angélique vous embrasse, et moi aussi. » Le traquenard était bien tendu. Rigoulo aimait la bonne chère et trouvait Angélique charmante. Il viendrait certainement déjeuner le mardi suivant à Clignancourt. Et alors ? « Tout est décidé, » disait Madame Morin. « Il faut qu'il y saute. » Malheureusement pour elle, elle éprouva le besoin de se confier à Mademoiselle Jonard en lui demandant d'interroger encore pour elle le maître pendant le sommet du grand Napoléon Ier. Mademoiselle Jonard n'était pas seulement cartomancienne. Elle émergeait encore à la préfecture de police. Pour se faire bien venir de ses chefs et les engager à fermer les yeux sur les autres branches de son activité, elle était contente de leur donner de temps en temps quelques affaires. Elle entrevit aussi du côté de Rigoulo une autre source de profit. Prévenu à temps, il la récompenserait certainement très grassement pour l'avoir empêchée de tomber dans ce traquenard. Elle alla le voir rue de l'Échiquier, lui découvrit le poteau rose et en tira 500 francs. Rigoulo écrivit aussitôt à Madame Morin qu'il acceptait son invitation avec le plus grand plaisir, et le surlendemain, il vint la prendre à 10 heures en voiture rue de Bondy. Madame Morin et Angélique l'attendaient en grande toilette. Après s'être fait 1000 politesses, on prit un cocher de place et Madame Morin donna l'adresse au cocher en lui disant de passer par la barrière Clignancourt. Mais alors Rigoulo la pria de vouloir bien que la voiture fît un petit détour en sortant de Paris par la barrière de la Villette parce qu'il avait une lettre à déposer rue de la Chapelle. Madame Morin ne fit aucune objection. Tout à coup, avant d'arriver à la barrière de la Villette, le fiacre s'arrête. 2 agents de police l'entourent, font descendre les 2 femmes et les conduisent au poste de police de la barrière. Là, elles sont fouillées par des femmes policières. Angélique avait dans sa poche les billets au porteur et une enveloppe contenant le discours que sa mère devait adresser à Rigoulo quand il serait enchaîné au poteau. Les agents enfermèrent les 2 femmes dans le poste et se transportèrent avec Rigoulo dans la maison de Clignancourt. Ils y trouvèrent dans la cave, toute préparée, les 2 domestiques qui attendaient le moment de se saisir de Rigoulo et de l'attacher au poteau. Après 6 mois de détention à Saint-Lazare, les dames Morin furent traduites devant la cour d'assises de la Seine. Grande affluence, le tout Paris des lettres et du théâtre était là, le corps de ballet de l'opéra au grand complet.
Les dépositions de Joseph Rigoulot et de la fille Genard, citées comme témoins, étaient très attendues. Rigoulot fit à la barre figure assez piteuse. Ses façons d'être avec les deux femmes manquèrent un peu trop de chevalerie. Après les avoir ruinées, cette promenade en voiture qu'il leur avait fait faire pour les remettre entre les mains des agents parut de mauvais goût. Le public le lui fit sentir, il sortit sous les huées. Mademoiselle Genard, plus étriquée, plus cadavérique que jamais, gainée dans sa robe de soie noire, ne fut pas mieux accueillie. Elle essaya d'abord de nier qu'elle appartenait à la police secrète. Devant l'évidence, elle avoua qu'elle émergeait au budget de la rue de Jérusalem et raconta comment elle était entrée dans la carrière. « J'avais eu de petites difficultés avec la police pour une dame qui disait que je ne lui avais pas dit la vérité dans les cartes. Alors j'étais voir à la préfecture M. Verrel, chef de la 5e division. Il m'a dit « Tout ça, c'est des bêtises. Venez me voir de temps en temps et racontez-nous si on a dit du mal du gouvernement. » Elle expliqua ses rapports avec les dames Morin et se défendit de les avoir encouragées. Au contraire, elle leur demandait comment une jeune fille comme Mademoiselle Angélique pouvait concevoir d'aussi terribles projets. Madame Morin lui répondit avec émotion « Ah, je vois bien qu'elle ne connaît pas Angélique. Elle a une tête admirable. Elle était faite pour régner. » La concierge de Madame Morin déclara qu'elle n'avait rien à dire sur ses locataires, dames tranquilles qui rentraient de bonne heure et payaient bien. Angélique se défendit elle-même. Sa plaidoirie fut étonnante. Elle commença par se défendre d'avoir voulu assassiner Rigoulot et pour décharger sa mère, elle prit sur elle toutes les responsabilités. À peine âgée de 16 ans, du sexe le plus timide et le plus doux, j'ai déjà acquis la plus triste célébrité. Depuis cette malheureuse affaire, on m'a assimilé au grand scélérat dont les forfaits sont transmis à la postérité en me prêtant leur courage. Sous des traits enfantins, on me suppose l'âme la plus atroce. Consultez mon âge. Ce n'est pas en entrant dans la carrière du monde qu'on débute par verser du sang. Consultez mon âme. Les grands crimes supposent une force et un courage que la nature semble m'avoir refusé. Je ne crois pas qu'elle ait posé sur ma figure l'empreinte d'une âme profondément perverse. » Elle termina ainsi. « Il n'y a que l'être suprême qui puisse démêler les règles de nos essors, à qui nous soyons comptables de nos pensées. Si vous me jugez coupable et qu'il faille un exemple, que votre sévérité tombe uniquement sur moi. Je commence à peine ma carrière. Je ne connais de la vie que peines et malheurs. Je ne tiens à personne ni à rien. Je n'ai rien à perdre, rien à regretter. Mais épargnez ma mère. Quant à moi, repentante et résignée, je ne murmurerai pas contre ma condamnation. Oh, donnez parfois une larme à ma mémoire. Dites, elle n'était pas née pour le crime. » Mais le jury était en veine de sévérité. Il y a des moments comme cela. Convaincue de tentatives d'extorsion de signature par force, violence et contrainte, tentatives d'homicide volontaire avec guet-apens, lesquelles tentatives, suivies d'un commencement d'exécution, n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leurs auteurs, elles furent condamnées à 10 ans de détention et 2 heures d'exposition au carcan sur la place de Grève. Elles subirent cette peine avec beaucoup de courage et de dignité. À Saint-Lazare, elles furent employées dans la lingerie et à l'infirmerie. Elles furent libérées en 1821. Depuis, leurs traces sont perdues. Il eût été intéressant de savoir ce qu'était devenu Angélique. Ainsi s'achève Une victime d'Anne Radcliffe par Maurice Soulier.